Bonjour, merci pour toute cette mise en place. C'est pratique parce qu'on peut partager ces images, ces mots avec le monde autrement que si c'était juste chacun qui partage ça avec quelqu'un et avec quelqu'un et avec quelqu'un, qui était la façon traditionnelle dans le bouddhisme de partager. C'était, on mémorisait les discours. Et puis, on le disait à quelqu'un d'autre, et à quelqu'un d'autre, et à quelqu'un d'autre. Et là, nous avons cette merveilleuse technologie où on peut filmer même l'image, enregistrer les mots, fait en direct via Zoom pour quelqu'un dans son lit d'hôpital. Et a priori, il est connecté. Donc, merci à Deschen Scholling pour cette bonne idée et à tout le monde pour votre patience et votre participation. Alors, depuis dimanche, comme j'ai dit l'autre jour, hier on avait fait chacun a parlé et ça c'était l'enseignement, c'était la voix de chacun, les cœurs de chacun. Comme j'avais dit l'autre jour, donc dimanche, c'était un plongée dans la voie de la non-dualité, la voie de la non-dualité. Lundi, on avait regardé les origines et le chemin que les enseignements essentiels du Bouddha ont fait pour arriver jusqu'à nous. C'était un bref aperçu de ça. Mardi, je vous ai parlé spécifiquement des Corans, il me semble, n'est-ce pas? Je crois que je manque quelque chose. Ah oui, non. Et puis mercredi, c'était les rituels et les formes. C'est ça, effectivement. Et notre rapport avec ça, et comment ça traduit dans nos vies, et quelle est l'importance et l'essence même de ça, dans cette pratique, et dans nos vies. Alors aujourd'hui, comme c'est notre dernier jour, j'ai pensé faire une sorte de revue, mais autrement. C'est-à-dire que ce matin, quand on avait fait la méditation marchant dehors, on a fait le chemin, et puis sur l'herbe, et puis on est revenu ici. Quand on est revenu ici, j'ai regardé, et mes bottes étaient mouillées. Et c'est une parfaite métaphore pour ce qu'on fait ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas été marcher dans l'herbe pour que nos bottes soient mouillées. On n'est même pas allé marcher dans l'herbe pour quoi que ce soit. C'était juste pour marcher. Mais le fait est que nos bottes étaient mouillées. Et quand on s'assoit, on ne se soit pas pour obtenir quoi que ce soit. Mais ça arrive. Il y a quelque chose qui se passe. On ne s'assoit pas pour devenir plus clair, pour devenir plus calme, pour avoir la paix, pour multiples objectifs qu'on puisse avoir. Mais c'est comme quand on marche dans l'herbe, les bottes sont mouillées. Mais on n'a pas fait ça pour ça. Et dès qu'on commence à faire la méditation, pour obtenir un résultat, on va avoir des problèmes. Et ça va à l'encontre de la nature même de cette pratique. Cet exemple ce matin est une illustration de ce que j'appelle ce dont je voulais parler aujourd'hui. C'est le simplicité radicale et subversive du zen. Et donc pour ça, c'est intéressant de regarder simplicité, de regarder radical et de regarder subversif. Et pour ça, j'ai regardé un peu, j'aime beaucoup l'étymologie des mots et bien que je n'ai pas étudié beaucoup formellement le latin, ça nous informe beaucoup sur les origines des mots. Et en fait, les sens sont souvent très parlants quand on regarde les origines. Alors, quand je parle de cette simplicité radicale et subversive du zen, subversif, disons, non, commencer avec simplicité. Donc, en latin, c'est simplicitas, la qualité de ce qui est un, non complexe, donc simple, on peut comprendre ça. En anglais, ça nous donne l'unité, l'indivisibilité, directe, ouverte, franc. Bon, évidemment, ça a d'autres significations, mais ça, c'est les significations à l'origine. Et quand moi, je parle de simplicité, c'est ça dont il s'agit. Ça peut aussi avoir cette notion de minimaliste. Le zen, comme la culture japonaise, l'esthétique japonaise est minimaliste, mais c'est surtout cette qualité de ce qui est un. C'est ça dont il parle. Donc, simplicité radicale. Donc, radical en latin, c'est du radicalis, racine, premier, fondamental. En anglais, ça donne ce qui vient de la terre ou les racines, ce qui est vital et qui est dirigé vers le sens. À la suite des siècles, le terme radical a été transformé et maintenant quelqu'un de radical est considéré comme contre l'ordre établi. Ça prend différentes... ça peut prendre une forme extrême. Et ça a toujours ce sens, quand je le dis, la simplicité radicale, parce que c'est une simplicité extrême, mais qui va à l'origine, au fondamental. Et subversif, donc, simplicité radicale et subversif. Donc, subversif, c'est du latin subverter, qui est sub, on peut comprendre ça, en dessous, et verter, qui est tourné. Donc, c'est de retourner, comme on pouvait retourner le verre d'eau pour renverser ou renverser. Voilà, c'est ça. Alors, quand je dis subversif pour cette simplicité radicale du zen, le zen est subversif, je dirais, d'abord. Car tout ce qui... Ça retourne l'ordre établi. Et quand je dis ça, il y a deux ordres établis. Bon, il y a l'ordre établi ici, et donc c'est le statu quo de notre... On dit statu quo en français aussi, hein, de notre esprit endormi, de notre être qui était conditionné pour fonctionner d'une certaine façon, pour adhérer à certaines règles ou ordres, que ce soit culturel, familial, social, économique, etc. Mais ce qui, quand je parle de notre être, donc le statu quo de notre être, c'est cet statu quo, on dit, en délusion, qui ne voit pas l'unité, qui voit uniquement la séparation, qui va fonctionner avec des dualités bien, mal, grand, petit, homme, femme. Bon, effectivement, tout ça existe. Mais c'est une partie seulement de la réalité. Et le statu quo, donc généralement de notre être, c'est ça. Et zen est subversif parce que ça cherche à retourner tout ça. Et il y a l'autre aspect du statu quo, c'est le statu quo de notre... culture, société, civilisation, qui est aveuglée par tout un tas par l'esprit utilitaire, de consommation, d'accomplir, d'obtenir, d'arriver, d'être meilleur, d'être vu, d'être reconnu. ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire d'être vu et reconnu. Mais le but de notre existence, ce n'est pas d'être célèbre. Mais notre société met ça en avant, comme si c'était ça le but. Et donc le zen, quand je dis que c'est subversif, ça va à l'encontre de tout ça. Ça cherche à subvertir, pour prendre le mot latin, tout ça. Pour retourner, justement, c'est là la radicale, pour retenir à notre vraie nature, à l'essence, à qui on est véritablement. J'avais cité hier le Coran de « Quel est ton vrai visage avant que tes parents soient nés ?» Et donc cette pratique de zen cherche à retourner à ça, à revenir à qui tu es avant le concept même de tes parents, avant même le concept de toi, et toutes les idées que tu te fais de toi, que ce soit nationalité, professionnelle, milieu social, éducation, fratrie, langue, sexe, tout ça, avant toutes ces identités, qui es-tu? Zen, c'est radical, parce que c'est ça dont il demande. Simplicité radicale et subversif. Alors, tout ce qu'on a fait ici, c'était avec ça en tête. Enfin, en tête. En cœur, disons. Mais c'était à notre insu. C'est comme quand on marchait dans l'herbe et nos bottes sont mouillées. Parce qu'une des choses les plus radicales qu'on puisse faire dans notre société, c'est de ne rien faire. C'est de se mettre sur un coussin pendant six jours. Super radical et subversif. Et j'adore ça, pour cette raison-là. La subversion de tout ce qu'on dit ce qu'il faut faire. Il faut bouger, il faut être actif, il faut obtenir, il faut arriver. Il faut suivre un chemin de carrière. Il faut monter l'échelle et devenir directeur général. Il y a tout un tas d'injonctions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait là. De juste s'asseoir et rien faire toute la journée. Toute la journée. Et pendant ce temps-là, j'ai remarqué ça ce matin, on arrive ici à 7 heures, il fait nuit toujours. Quand la première période termine, il y a lumière. Le soleil se lève, le soleil se couche pendant qu'on est là. Juste là. Entièrement là. Les oiseaux vont migrer. Cette merveilleuse image que Joël nous a rapportée. Et comme j'ai dit à Joël hier, c'est un bon exemple aussi parce que non, je ne vais pas fermer. Il était dehors, il voit les oiseaux qui passent. Waouh ! Il y a quelque chose qui se passe pour lui à cet instant-là. Waouh ! Et à la suite, il va chercher les informations là-dessus, qui apportent quelque chose d'extraordinaire à cette expérience qu'il a eue. Mais l'expérience qu'il a eue était avant toutes ces informations. C'était avant de savoir quel genre d'oiseaux, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils font ça. Quand il a vu ça, c'était l'expérience directe de juste ce qui est. Évidemment, c'est magnifique de savoir le trajet de ces oiseaux. Ça m'émerveille, cette histoire. Mais rien que juste voir les oiseaux qui passent et qui ne passent même pas. Il y a des Corans qui disent, mais où le maître dit, il y a un oiseau dans le ciel, il dit, où est-ce que c'est un canard. Où est-ce que le canard est allé? Et l'autre dit, il est parti par là. Et le maître, lui, tord le nez. Parce que l'oiseau ne va nulle part. En cet instant-là, C'est ça. Et puis, après, c'est autre chose. Enfin, il n'y a même pas après. Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas une chanson qui est « Il n'y a pas d'après ». Je ne me souviens plus ce que c'était, mais... C'est juste ça, disons. Il y a une célèbre histoire de... Je crois que c'était peut-être dans les années 60, les années 80, je crois. Il y a un grand maître de zen coréen, Son Sanim, qui est aujourd'hui mort, et il y a un grand maître tibétain, Kalu Rinpoche, qui est aussi mort aujourd'hui. Je ne me souviens pas quel lignage il est, Kalu, quelqu'un sait quoi? Kagyu, je crois, oui, c'est ça. Donc, un Coréen, un Tibétain d'un lignage Kagyu, ils étaient en France, je crois. Et les disciples de chaque maître voulaient vraiment qu'ils se rencontrent, parce qu'ils étaient fiers de leur maître, ils pensaient que chacun pouvait apprécier l'autre, etc. Donc, ils acceptent et ils organisent une rencontre. Ils sont assis dans un salon, un peu comme un salon là-haut, avec tout un tas de choses, des offrandes, un bol de fruits. Et Son Senim, le maître zen, prend un orange et il dit à Kalu, « Qu'est-ce que c'est ?» Kalu regarde. Hein. Et ils ont leurs attendants là, leurs traducteurs, etc. Et ils lui répètent, « Qu'est-ce que c'est ?» Plusieurs fois, « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» Et Kalu tourne vers son traducteur et dit, « Mais il ne sait pas que c'est un orange. » C'est deux approches différentes, mais qui reviennent. C'est-à-dire que pour le maître zen, c'est « on met tout en question ». On va tout questionner, parce que véritablement, si, comme j'avais dit pour cette pratique de traduction, Si on enlève tout concept de orange, pas orange, etc., on peut voir véritablement l'orange. Mais il faut, c'est pas une injonction, hein. C'est le chemin passe par enlever les concepts, les idées, quel genre d'oiseau c'est, où est-ce qu'ils vont, etc., c'est juste l'oiseau. Pour Kalu, j'imagine que c'est un autre cheminement qu'il va faire. Il va regarder, comme font les Tibétains, je ne sais pas si les Kagyu ils font ça, où ils ont des dharma, des combats de dharma, où ils vont décortiquer d'une façon très élaborée la nature de l'orange. Ou un jour, quand j'avais, en tant que journaliste, j'ai eu la chance de faire un entretien du Dalai Lama. Et j'avais préparé toutes mes questions. Mes collègues, mon chef au journal, etc. Tout le monde voulait savoir la Chine et les Tibets, évidemment. Pour un journal, c'était ça. D'autres voulaient savoir, je me souviens plus, mais il y avait des trucs très politiques, géopolitiques. Et moi, j'étais jeune étudiante zen, et donc mon maître m'a parlé plutôt de... différentes choses. J'avais fait beaucoup de recherches sur lui, j'ai lu ses biographies, j'ai étudié et tout. J'arrive préparée, j'étais une bonne journaliste. Je suis arrivée préparée, toute part au moment que j'arrive. Je suis entourée par tout un tas de Tibétains. Il y avait l'ambassadeur tibétain de Paris, il y avait des traducteurs, il y avait des moines importants. Un tas de gens, on était dans un grand hôtel parisien, et j'ai commencé, bon, je l'avais dit, hein, que j'étais étudiante zen, et que j'avais cette double casquette d'essayer de poser des questions, venant de cette journal très mainstream, qu'il adorait d'ailleurs, il m'avait dit qu'il le lisait tous les jours, et... mais avec mon sensibilité d'étudiante apprentie zen. OK. Quelques questions en pause, etc. Et puis, je viens à une question. Il avait une montre Rolex. Je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais il a une montre Rolex. Et donc, je lui dis, alors, c'est quoi, d'où vient cette montre Rolex? Et il me dit, ah, on m'avait offert ça... il y a des années, c'est le même que j'ai depuis des années, des années, des années. Je ne sais pas comment... Ah oui, quelqu'un m'avait demandé, dans mon entourage, m'a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage tellement, comment il fait avec le jet lag, le Dalai Lama? Et donc, je lui dis, j'ai posé cette question. Il dit, ah bah j'ai ma montre Rolex, et quand j'arrive quelque part, on me dit que c'est 16 heures, je mets la montre, et c'est 16 heures. Comme ça que je fais. Moi, ça marche pas. Hein. Et puis, je dis, alors, mon esprit fait... Je dis, alors, mais c'est quoi la réalité, alors? Parce que je me dis, mais est-ce que c'est véritable? Quand est-ce que c'est 16 heures? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est la réalité, alors? Parce qu'il m'a dit, oui, je fais ça, et c'est ça la réalité, un truc comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que c'est la réalité? Tout le monde rigole, il dit quelque chose à son attendant, et tout le monde rigole. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu embarrassée. Et puis, la traductrice se tourne vers moi et dit, il dit en anglais, comment on dit en français? His Holiness, sa sainteté, on dit? Oui. Sa sainteté dit que vous êtes une très bonne étudiante zen. Et puis, enchaîne une explication de la réalité qui m'a dépassée complètement. Je n'ai rien compris. Maintenant, je pense que je comprends, mais à l'époque, toute jeune étudiante zen, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais, il pointait vers la table, il y avait une table, là, et c'était grosso modo, ok, ceci est une table. Et puis, un peu à l'esprit de Magritte, ceci n'est pas une table. Et il m'a expliqué à la façon très tibétain de pourquoi ce n'est pas une table. Pour le zen, c'est beaucoup plus simple, radical. C'est, ok, quelle est ton expérience de cette table, avant le concept de table? On ne va pas s'occuper de comment on a créé ce concept, de quoi il est fait la table. On ne va pas décortiquer. C'est simplicité radicale et subversive. Avant de dire table, qu'est-ce que c'est? Et donc, ça revient à cette question de qu'est-ce que c'est? Et donc, pour Sun Sunim, qu'est-ce que c'est était primordial, essentiel. Pour Kalu, c'était autre chose. Je vois que Dale est connecté, je ne le vois pas, mais bonjour Dale. pour Kalu, c'était autre chose, mais il revenait aux mêmes choses, aux mêmes points essentiels, de différentes façons. Et là, on est dans ce lieu qui n'est pas du tout zen, hein, mais il est complètement zen. Il est zen parce que nous, on est là, c'est ce qu'on fait. Mais deux, parce que tout est zen, on peut appeler ça ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut comme pratique. Pour nous, c'est zen. Alors, il faut dire que moi, je dis que c'est la simplicité radicale et subversive du zen. Il y a des écoles zen qui ne vont pas la présenter comme ça. Ils vont avoir d'autres formes. Moi-même, ma pratique d'origine était avec un maître qui était beaucoup moins formel que son maître était, mais qui était quand même adhéré plus aux formes conventionnelles, disons, et traditionnelles du zen. Donc les gens portent les robes noires, ils ont beaucoup plus de rituels et cérémonies. J'essaie de trouver d'autres choses, mais c'est à peu près ça, hein, en fait. Parce que elle a la même approche que moi, autrement, de simplicité radicale et subversive, bien qu'elle ne dirait pas comme ça. Elle a une autre façon de le présenter. Ce qui est la beauté aussi, des enseignements, de ce dharma, qui vient de l'Inde il y a 2500 ans, qui était présenté dans le contexte auquel le Bouddha vivait, personne, Shakyamuni, qu'on appelle le Bouddha. Et c'est différent aujourd'hui que c'était autrefois, mais heureusement, parce que sinon ce sera mort. Si ça restait, si on était attaché à la façon que le Bouddha l'a présenté, le vivait, ce sera mort. Et on a des exemples. Un des principes de base, comme j'avais dit l'autre jour, de bouddhisme des origines, avec Shakyamuni, Bouddha, il voulait que tout le monde soit égal. Donc il a demandé à tout le monde d'enlever leur beau robe et mettre les robes simples qu'ils ont bricolées avec des tissus qu'ils ont trouvés. Et c'était interdit, parce que apparemment c'était considéré comme un tissu de luxe, c'était interdit, non, peut-être c'est devenu plus tard, mais c'était interdit d'utiliser, de porter le coton pour les moines. Les moines n'avaient pas le droit de porter du coton. Et peut-être que c'est plus tard, dans le Theravada, qui a instauré ça. En tout cas, ça existe aujourd'hui dans certaines traditions de Theravada que le coton est interdit pour les moines. On raconte une histoire de notre lignage où il y avait un grand maître Theravada, je ne sais pas, qui venait de Sri Lanka ou Thaïlande, je ne sais pas où, qui visitait notre temple mère à Los Angeles. Et dans ce temple à Los Angeles, tous les aboutons et les afous étaient en coton. Et tous les draps étaient en coton. Et donc, il a fallu fabriquer les aboutons, les afous, et acheter les draps spéciaux pour le moine, pour qu'il ne soit pas en contact avec le coton. Jusqu'au moment où on s'est dit, mais c'est absurde. Parce que l'esprit du moine, c'était d'être comme tout le monde. Et là, on était en train de détourner l'esprit pour faire quelque chose de spécial. Grand enseignement, quand même. Si on se fige vers quelque chose qui n'est pas en phase avec nos circonstances, notre époque, notre situation, les gens, on va passer à côté de l'essence et de la radicalité, disons, de ces enseignements. Bon, c'est quelque chose que Shogyam Trungpa, ce lieu existe grâce à Shogyam Trungpa, il a compris. Parce que quand il est venu en Occident, il a dit, je jette toutes les formes exotiques, c'est revenu un peu, mais je jette tout ça parce que je comprends très bien que ça ne corresponde pas à la société des années 60 aux États-Unis, où il est arrivé. Et je ne veux pas que les gens soient attirés par ces formes exotiques. Je vais parler leur langue. Je veux qu'ils soient habillés comme ils sont. Je veux que ce soit installé dans leur culture, telle que ça existe, telle que leur culture est. Alors, on peut regarder autour de la pièce, on dit, ah oui, mais quand même, on est assis par terre, on a les champs, on a gardé les choses, on fait des choses qui ne correspondent pas vraiment à notre monde. Donc, ce que moi j'ai fait, un peu comme Shogyam Trungpa, c'est que quand j'ai commencé, par nécessité en partie, quand je commençais à enseigner, je n'avais rien. Donc, je n'avais pas de coussin, je n'avais pas de cloche, je n'avais pas de statue de Bouddha, je n'avais rien. Et donc, quand je faisais une retraite, on prenait des coussins, des canapés, des chambres, on mettait une bougie. J'avais une carte postale où il y avait une image de Bouddha, je mettais ça sur l'autel, qui était juste une table qu'on trouvait dans le salon de quelqu'un. Et on faisait pas de chant, personne ne connaissait. Je mettais pas de robe parce que personne n'avait des robes, pourquoi j'allais me faire différente. J'ai gardé quand même le rakusu parce que ça fait partie de qui je suis en tant que maître zen. Comme une identité que j'ai dans ce rôle, disons. J'ai tout enlevé, orioki, tout, 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 il n'y avait rien. juste s'asseoir. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça l'essentiel. Il a fallu une certaine forme, comme Herb avait dit l'autre jour, décorum. Je ne sais pas si on dit ça en français. Décorum. Il faut un certain décorum quand même. Il faut une certaine forme. Donc, je l'ai mis les gens comme j'avais l'habitude, comme ça. Mais à part ça, juste s'asseoir. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de monde se joint à cette communauté. J'ai introduit petit à petit des rituels et des formes qui avaient un sens pour moi. Je dis pour moi parce que c'était moi qui était censé transmettre ces enseignements. Donc si j'avais l'idée que ça avait un sens pour avancer, pour transmettre ces enseignements dans la situation dans laquelle j'étais, je l'amenais, j'introduisais. Mais uniquement si ça avait un sens pour ce groupe à ce moment-là, pour renforcer, pour introduire, pour transmettre cette radicalité simple et subversive du zen, qui est juste qui es-tu et qu'est-ce que c'est la véritable nature de toute chose. C'est vraiment ça. Si les formes pouvaient favoriser de se mouiller des bottes en marchant, tant mieux. C'était ça le but. Et c'est ça ce qu'on a essayé de faire cette semaine. Je reviens à nous, donc ici, pendant une semaine, à Deshen Shuling. Qu'est-ce qui pouvait favoriser, cultiver le terrain pour qu'on se mouille les bottes? Et mouiller les bottes, c'est ouvrir les cœurs. Ouvrir les esprits, ouvrir le champ de perception, de conscience. Qu'est-ce qui pouvait favoriser ça? Pour revenir à ton vrai visage avant que tes parents sont nés. De revenir à la qualité de ce qui est un, pour revenir à la simplicité. Comme j'ai commencé au début, à l'unité. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste, mais j'aimerais bien que vous puissiez poser des questions ou partager quelque chose, si vous voulez. Il reste 20 minutes ? Ok. Donc, j'ouvre la parole, si vous avez des questions. Observation, des choses à partager.
C'est un peu pour... Par rapport à ce que tu dis sur les rituels et tout ça, et sur la forme qu'on met, quand j'ai commencé, moi je suis arrivée dans une session avec des formes, enfin avec les robes noires, tout ça, le rituel, pas mal de cérémonies et tout ça. Et je me souviens que ce que ça m'a fait au début, et on était trois débutantes arrivées comme ça ensemble, et bien, on s'est mis à rire, mais vraiment à rire. Heureusement, c'était une sangha qui était très bienveillante. Personne n'a rien dit, tout le monde a continué à faire son zazen, mais nous, on ne pouvait pas s'empêcher de rire. C'était un peu une réaction par rapport au rituel qu'on ne connaissait pas du tout. Et moi, je ne m'y attendais pas du tout, en plus. On n'avait pas du tout expliqué comment c'était. Et je pense, là, ce qui s'est passé, c'est que peut-être... À un autre moment, j'aurais fui parce que j'étais assez anti-religieuse et je ne comprenais rien au rituel et que je trouvais que c'était de l'endoctrinement. Bon, pour moi, ça faisait partie de l'endoctrinement, le rituel. Mais comme il y avait cette bienveillance autour, ben, je suis quand même restée. Et puis, j'ai continué à la session. Et en fait, maintenant, enfin, c'était juste pour dire que j'ai vraiment l'impression d'un juste milieu avec ces formes. C'est-à-dire... S'il n'y a pas les formes, et ben en fait c'est comme si on va chez des amis et qu'on cause ensemble. Et du coup ça met pas, ça se met, on se met pas en situation. J'ai l'impression de ça. Quand on se met pas en écoute ou dans un processus de recevoir. Alors que quand il y a des formes, il y a une forme de solennité qui fait que déjà on se met en écoute de quelque chose. Mais s'il y a trop de formes, on peut rire. Alors ça dépend de là où on se place, comment on est à ce moment-là, peut-être. Et puis, en tout cas maintenant, je ne suis plus du tout contre les formes. Mais en même temps, il y a vraiment une histoire de justesse dans ces formes. Pour que ce soit... C'est comme ça que je ressens les choses. Par exemple, chez les Tibétains, pour moi, il y a encore trop de formes. Enfin, quand je vais là, je trouve qu'il y a trop de choses. Ça fait trop... Alors, bien sûr, je ne comprends pas. Donc, c'est normal que ça me fasse ça. Pour moi, c'est trop exotique, du coup, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est mon ressenti actuel, mais je serais dans leur pratique. Peut-être que je dirais les choses complètement différemment, en fait. Je pense qu'il y a une... Voilà. Bon, c'est juste un partage.
Merci. Je trouve que oui, c'est important à préciser qu'il y a toujours une forme. La question, c'est Bon, même si on est chez les amis, il y a une forme. Mais est-ce que cette forme, la forme qu'on est là en train de boire un verre avec les copains, est-ce que ça va favoriser ce qu'on cherche à faire ici? Donc, il y a toujours envie dans un monde de forme. Donc, c'est des questions, comme tu dis, c'est quelle forme et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Pourquoi on a choisi telle ou telle forme? Quel est l'intérêt de ces formes? Il y a toujours, toujours de forme. Et effectivement, quelle est la forme qui convient pour la situation, l'intention, les gens, etc. Et chacun a ses affinités, effectivement, de ce qui nous parle, ce qui va marcher pour nous, disons. Chacun, c'est... Mais il y a toujours la forme, parce que c'est un monde de forme. Nous, on est forme, donc c'est...
Ben, je vais essayer de trouver les mots justes pour une forme de question. En fait, c'est pour rebondir, tu disais, c'est quand tu parlais de voilà, cet espace, par exemple, pour nous, maintenant, là, c'est zen, parce qu'on pratique ça, etc. Pour d'autres qui pratiquent autre chose à un autre moment, ça a une autre qualité, une autre nature. Du coup, j'entends là-dedans comme une histoire de décision, enfin d'expérience en tout cas, individuelle. Donc, et du coup, c'est pour confronter cette idée, pas confronter, en tout cas pour te demander qu'est-ce que tu penses de ça d'une part, et d'autre part de parler de la notion de nature essentielle. Parce que quand on parle de nature essentielle, c'est comme s'il y avait quelque chose d'absolu. Et quand on parle, par exemple, du fait que pour un tel, c'est que ça, la nature de l'essence, voilà. Pour nous, ça, c'est elle. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Et donc, je me perds un peu dans la piscine, entre les deux rives.
Oui, oui, je comprends. Je comprends. Et donc...
Je me promène.
Oui, je comprends. Et donc... Regardons, je crois que sur notre site, il y a quelque chose du genre l'univers est notre zendo et la terre est notre hôtel. Je crois qu'il y a un truc comme ça, non? C'est ça? Ouais. Je l'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit, donc... Parce que j'avais mis... Comme nous n'avons pas, notre sangha n'a pas un lieu dédié... c'est-à-dire qu'on n'a pas de centre. On a essayé pendant trois ans, ça n'a pas du tout, ça ne convenait pas pour nous. parce que c'est pas notre genre. Et donc j'avais mis, je crois, sur le site, pas de mur, pas de l'architecture, pas de moine, pas de robe, etc. Et j'ai dit, l'univers est notre zendo et la terre est notre hôtel, un truc comme ça. Ça se trouve que depuis 20 ans, notre assise régulière tous les lundis soirs se passe dans le salon de quelqu'un, à Paris, dans un appartement parisien. On arrive, on enlève tous les meubles, on installe les coussins, un sang, bougie, etc., etc., et c'est un zendo. Quand on s'en va, on enlève tous les coussins, les range, hein, on remet les tapis, etc., etc., et puis Joe et Delphine peuvent inviter leurs amis boire un coup. Toi, tu as un groupe là, dans la Drôme, dans une salle qui, le mardi soir, c'est, je sais pas, oui, le mardi, c'est ça, c'est un zendo. Et puis, le mercredi, c'est l'autre chose, n'est-ce pas? Oui. Tout peut être, selon les circonstances, les gens, les intentions, tout peut être zendo, tout est zendo, un certain lieu de pratique, disons. Je dirais pas, c'est pas tellement décision que être en contact avec la situation, les ressources qu'il y a, les ingrédients. Bernie Glassman utilise souvent cette image de faire un repas suprême. Et le repas suprême, c'est notre vie. Donc, comment faire le repas suprême de notre vie? C'est, on regarde qu'est-ce qu'on a comme ingrédients et on se sert de ces ingrédients pour faire ce repas suprême. Et les ingrédients, on ne va pas forcément aller au champ acheter des trucs spéciaux. On ne va pas aller à Fauchon, à Paris, acheter des produits luxe, etc. On utilise ce qu'il y a ici. Et donc l'esprit que moi j'interprète ça comme ça, je vis ça comme ça, c'est mon expérience en tant que pratiquant zen, c'est ici, avec ma vie telle que c'est ça le zendo. C'est ça qu'il y a à faire. C'est ça, comment je fais avec ça. Donc c'est pas vraiment une décision, mais c'est une intention et un éveil à de quoi il s'agit. De faire de ma vie le repas suprême, la pratique, le siège sur lequel chacun est assis. C'est intéressant, là, cette statue de Bouddha qu'on a. C'est le statue où il a un main sur l'arc et puis l'autre qui pointe vers la terre. Et c'est souvent interprété comme le moment quand Mara lui dit « Mais qui es-tu ? Qui es-tu pour prétendre à l'éveil ? Comment toi tu peux oser ça ? Mais tu es rien. » Enfin, c'est... Et nous, on peut entendre ça. Hein? On a cette Mara en nous. Ah, moi, non, mais je ne suis pas capable de ça. Hein? Ah non, mais je ne peux pas faire ça. Ou le contraire, ah oui, moi, je vais être éveillée. C'est Mara qui nous parle. Et donc lui, il pointe vers la terre et il dit, bon, ce qu'il dit apparemment, c'est « Je prends la terre en témoigne. La terre est mon témoigne. Que je suis légitime. Je suis assis ici. Et c'est ici, ici le siège de l'éveil. C'est ici que ça va se passer. C'est ici maintenant moi. Moi va être... » Moi, va être avec l'étoile du matin. Mais, c'est ici. C'est là que, ça, pour moi, cette statue, ça signifie ça quand il pointe. C'est là. Là, c'est le trône de l'éveil. Le trône, parce que là, le trône. C'est là. Ça ne peut pas être ailleurs. Ça peut ne pas être ailleurs. Ça peut pas, et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Jeune pratiquante, pendant une session, j'ai entendu quelqu'un qui donnait un discours sur un maître qui monte sur le, pour donner le talk, qui ne dit rien et qui descend. Donc, je me souviens pas du tout le commentaire que le maître a dit là-dessus, mais j'étais effondrée. Parce que ce que moi j'avais compris, c'est que C'était le maître, il est là, et c'est ça. Il est ça. Tel qu'il est, c'est ça l'enseignement. Moi, je suis effondrée parce que je me dis, mais mon Dieu, je ne vais pas être quelqu'un d'autre. C'est que ça. Je ne vais pas, c'est que ça. Oh là là, j'ai pleuré toute l'après-midi. Après avoir pleuré toute l'après-midi, les années, etc., je me suis rendu compte que oui, mais effectivement, comment ça peut être quelqu'un d'autre? Comment je peux être quelqu'un d'autre? Et en plus, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'être ailleurs, je n'ai pas besoin de devenir quelque chose autre. J'ai juste à revenir ici avec cette simplicité radicale et subversive. Parce que la subversion, c'est de détourner, de enlever toutes ces idées qu'il faut être comme ci, il faut être comme cela, il faut être ailleurs, cette siège n'est pas bien, il faut un autre siège, il faut l'autre habit, il faut faire toute petite A, step 1, échelle 2, tout. Mais non. La simplicité radicale et subversive du Zen, c'est que c'est toi, ici, maintenant. Comme je dis, c'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pleuré toute l'après-midi avec cette mauvaise nouvelle. Hein. Mais avec de bonnes nouvelles, j'ai pu continuer et je suis ici maintenant. Et je sais que vous avez tous le potentiel aussi pour ça. Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être que vous le savez déjà. Et si vous ne savez pas, il y aura un moment que vous le saviez, et puis on va l'oublier, et puis ça va revenir, etc. Et c'est ça notre chemin.
Ouais. Je voulais partager un petit truc subversif qui m'allège, en fait, par rapport au rituel que vous proposez dans la Sangha. En fait, c'est par moments ça me fait rire, en fait. Il y a la solennité et ça m'aide. C'est grave. Et puis hier, on est parti marcher et Adrien, tu nous as fait sortir du domaine, revenir et ressortir. Et moi, j'étais là, c'est la grande évasion. Mais non, c'est vrai. Et cette simple, je sais pas comment dire, simple regard, ça m'a libéré pour replonger dans quelque chose de plus solennel sans me sentir enfermé. Ouais.
Super. Et les vaches aussi, hein, ça nous a enlevé un peu de notre solennel. Hein, c'est... Oui, c'est ça. Les petits, les culs, l'autre qui nous regardait, mais... Oui, effectivement.
Je voudrais revenir et renchérir sur l'importance et la nécessité des rituels, effectivement. Bon, comme je disais hier, moi, pendant les 15 premières années de ma pratique, j'avais horreur des prosternations, des anyashin-gyo, des rituels, des tout ça. J'étais la pose zen où je souffrais, bien sûr, abominablement, mais ça m'intéressait. Mais tous les rituels, ça me barbait, quoi. Et puis, bon, j'ai appris ça petit à petit, et surtout avec mon dernier ex-maître Dokusho Vidalba, qui lui est très précis, très précis dans les chants, dans l'organisation, tout ça. Et là, j'ai appris à aimer et tout ça. Et j'ai pensé pendant cette séchine, parce que maintenant je fais beaucoup moins de séchine que j'en ai fait à une certaine époque, et donc je médite chez moi régulièrement, enfin tous les jours. Et à un moment, je n'avais rien, quoi. J'avais un petit hôtel, mais je manquais de rituels, justement. Et maintenant, je m'impose à réciter l'Anyashin-gyo. Bon, je fais ça en général quand ma compagne n'est pas là, parce que comme j'ai une voix forte, elle n'est pas du tout branchée là-dessus, ça la dérange. Mais j'ai besoin, bon, j'ai mon rakusu, mais j'ai besoin de chanter l'Anyashin-gyo pour me sentir là. Et je vois que si je ne fais pas ça, Ma pratique individuelle, elle dérive, quoi. Bon, je pars dans mes fantasmes que j'ai tout le temps dans ma tête, quoi. Tandis que là, ça me recadre. Et voilà, quoi. Et là, effectivement, au début, je t'avais fait la remarque, je disais, ça me manque, il n'y a pas d'Anachim Guillo ici. Et puis en fait, non, ça s'est passé très bien sans Anachim Guillo. Parce qu'il y avait la force du groupe, quoi, et les horaires aussi extrêmement précis. Enfin, oui, ça, tu l'avais évoqué à un moment, le fait que dans le zen, effectivement, tout soit hyper cadré, on pourrait... Vu de l'extérieur, les gens disent « Ouh là là, c'est trop martial, c'est militaire, on s'enferme. » Et en fait, c'est grâce à tout ce cadrage que, lorsqu'on l'a appris, alors au début, c'est comme des oreilles-couilles, au début, bon, on va un peu dans tous les sens, mais une fois que c'est intégré, on est libre là-dedans, et c'est super, quoi. D'où l'importance de ces rituels, quoi. Mais il faut, voilà, ça s'ajoute petit à petit.
Oui, tout à fait, hein. Et c'est intéressant que quand on est chez soi, si on veut méditer chez soi, toute seule, c'est important d'avoir un rituel. On n'a pas forcément besoin de réciter un sutra. Mais j'encourage toujours les gens à avoir un rituel, quoi que ce soit. Si c'est juste toujours se mettre dans la même chaise, aux mêmes heures, avec la même couverture. Même si on n'a pas froid, on met la couverture à côté, enfin, avoir un rituel, exactement pour cette raison. Parce que ça nous donne un cadre. Et le cadre, ça soutient, comme n'importe quel cadre. Hein. On met une image sur le mur, c'est différent quand il y a un cadre ou quand il n'y en a pas. C'est un soutien immense. Et ça nous laisse libre champ. Comme tu dis, à l'intérieur de ça.
Tu as parlé de la... Pour aller marcher, on met les bottes, on revient, les bottes sont mouillées, et on n'est pas allé marcher pour que les bottes soient mouillées. Lorsque je médite, c'est quoi les bottes?
C'est ton être. Et on ne fait pas pour que notre être soit mouillé, éveillé, plus clair, plus calme. C'est juste ça. Dans le zen, le mot qu'on va utiliser, que ce soit... Souvent c'est shikantaza, qui est un mot japonais, qui traduit plus ou moins... Just sitting. Just sitting. Juste s'asseoir.
Simplement s'asseoir.
Voilà. Simplement s'asseoir, exactement. Mais ce n'est pas ce qu'on pense, c'est pas juste, c'est pas simplement s'asseoir, c'est simplement s'asseoir! C'est une différence. Hein. C'est différente de simplement s'asseoir. Et puis, simplement s'asseoir. C'est différent. Quoi?
Yate, parasam yate,
oui.
Bodhisora.
Oui.
Moi, je reviens, excusez-moi, mais c'est...
Bah, c'est magnifique, hein, cette... Ouais.
Les bottes, on les a, on n'a pas allé acheter des bottes.
Absolument. Absolument. Rien, on a besoin de rien d'autre. Tout est là. Comme j'avais raconté des migrants à qui j'avais... Ils ont tout, là. Bon. C'est notre situation, et je ne veux pas prétendre qu'ils sont dans la même situation que nous. Mais au niveau de leur être, ils ont tout. On a tous tout déjà. Et on n'a rien, en fait. C'est ça ce qui est merveilleux. Est-ce que je vois pas le temps là-dessus?
45 secondes.
J'ai peut-être une question, 45 oui. Secondes. Pourquoi tu as deux ou trois rapsous? J'ai pas trop fait gaffe.
Mais oui.
Des rapsous différents, et pourquoi oui. Tu les portes à certains moments, d'autres, par exemple.
Oui, j'en ai. Ici, j'ai deux. J'en ai deux, je n'ai pas amené les autres. Comme tout le monde, à l'origine, j'avais un noir, comme ça, que dans notre tradition, on fabrique nous-mêmes. On fait la couture et on fabrique. Et puis, quand on prend les vœux de rentrer sur le chemin formellement, c'est l'équivalent de vous avec les vœux de Bodhisattva, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et après, quand j'ai commencé à enseigner, avant que j'ai reçu la transmission, le shio, mon maître m'avait donné un hakusu qui est pourpre, qui symbolise que je suis autorisée à enseigner, mais je ne suis pas encore avec tous les papiers officiels de shio, de transmission. Et puis, quand j'ai reçu la transmission, a priori, je reçois, et c'est ce que j'ai fait, j'ai reçu ce qu'on appelle un kesa, c'est une robe, c'est la robe de Bouddha qui est transmise. C'est pas véritable, on fait pas comme les chrétiens où c'est des reliques, ça a appartenu à Jésus. Mais ça symbolise la robe du Bouddha, que je ne mets pas que pour les cérémonies parce que je mets pas de robe. Donc, après, à un moment, mon maître m'avait donné différentes. Au moment que j'ai reçu l'Inka, qui est dans le Zen Rinzai, et l'ultime autorisation, reconnaissance, qui me donne le titre de Roshi. Avant, j'étais Sensei. Et puis, quand je reçois l'Inka, l'autorisation de mon maître, j'ai le titre de Roshi. Et elle m'avait donné un autre hakusu, qui est Brocade, que j'ai pas amené là. Ce hakusu, qui est la couleur du kesa d'un maître, dans notre lignage, c'est cette couleur ocre, a été fait par mes élèves, par la sangha, pour moi. Et ils l'ont fait avec le tissu du kesa de mon successeur.
C'est celui qu'on a fait au Portugal ?
Oui. C'est, j'ai un successeur à qui j'avais donné shio, et il a fait son kesa avec un tissu qu'il a acheté et qu'il en restait. Et donc, le sangha a fabriqué ce hakusu pour moi. L'autre que je porte ici, c'est mon frère du Dharma, Franck Roshi, qui me l'avait donné. Et qui est, en fait, c'est le seul hakusu Rinzai que j'ai, en fait. Oui. Et qui est plus grand. C'est plus grand et ça... l'anneau, c'est Rinzai. Bon, je les accumule comme ça, je les mets pas... Pendant des années, j'avais le noir et je le mettais tout le temps. Et j'aime toujours remettre le noir aussi, parce que c'est qui je suis véritablement. Et c'est là où est écrit le nom que mon maître m'avait donné. Enfin, là aussi, c'est écrit aussi, hein. Mais c'est là le hakusu que j'ai reçu quand... Elle m'avait donné mon nom et donc c'est ça, c'est différente. J'essaie de ne pas changer tout le temps et il n'y a pas vraiment une signification pourquoi je mets ça maintenant. Non, non. Pour les cérémonies, j'aime bien mettre le brocade ou ça parce que ça correspond à plus au kesa, mais autrement, pas de. C'est mystérieux. Tout est mystérieux et c'est ça la simplicité radicale et subversive du zen, c'est aussi de révéler cette mystère et de nous faire expérimenter, de nous donner l'expérience directe de ce mystère. C'est mystère et féminin ou masculin?
Masculin.
Quoi?
Masculin.
Masculin. Le mystère. Ok, il est temps, hein, je crois. Oui. Ben, merci beaucoup.
Préparez-vous.
Ah, la photo. On voulait faire la photo.
Ah oui.
Que vous voyez pas, on s'éparpille.
Et oui. Mais donc ici, par exemple, je serais content.
Ou devant, ou derrière, sur le porche. J'ai fait les photos là. Je sais pas.
Tu veux dire à l'extérieur, là ?
Ouais.
Ouais. Ah bah oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas manger ?
Ben c'est là, mais si on en a pour 2 minutes, comme vous voulez.
Comme vous voulez.
Qui veut manger?
Mangeons et puis on fait la photo tout de suite après.
Ouais, tout de suite.
Mais on n'aura pas la photographe qui est allée le faire.
Non, mais le photographe, il nous a dit
de le faire lui-même.
Ok.
Très
gentiment.
What time is it?
One.
Thank you so much.